Buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Andreas Scholl.
Bonjour.
Alors Andreas Scholl, vous avez publié il y a quelques semaines, quelques mois même maintenant, un disque de cantates de Bach. Alors Bach et vous, c'est une vieille histoire, on pourrait dire peut-être, je crois, non ? Je crois que vous chantiez déjà ça presque à la maison, d'une certaine manière. Comment vous trouvez votre voix dans Bach aujourd'hui ? Puisque quand on suit comme ça toute sa vie presque, avec un tel compositeur...
Ça change toujours, mais ça reste quand même le compositeur favorisé pour moi. C'est la connaissance de son style de composition, ça devient de plus en plus profond. On peut aussi dire que la responsabilité individuelle grandit avec la connaissance, comme avec tous les métiers. Le plus je connais sur un certain sujet, le plus de choix j'ai, alors plus de responsabilité. Mais pour moi, techniquement, ça devient de plus en plus facile, mais l'interprétation demande toujours beaucoup de travail chez Bach.
C'est un danger, justement, que ça soit de plus en plus facile ?
Un piège ? Oui, ça reste toujours une défi techniquement, mais maintenant, j'ai tellement d'expérience dans le répertoire qu'il y a une certaine souveraineté, une certaine facilité qui permet d'investir l'énergie dans une autre région, dans l'interprétation. Je pense comme jeune chanteur, si c'est vraiment la première fois qu'on chante Bach, techniquement c'est difficile. C'est un peu en concentration de l'énergie pour chanter techniquement propre. Et après, si la technique va dans l'autopilote, je peux faire la musique.
Justement, il y a quelque chose d'assez passionnant dans le livret qui accompagne cet album de cantate de Bach. Je crois que c'était en fait un article pour Goldberg Magazine qui a été un peu remanié, où justement vous parlez de la difficulté d'appréhender la musique de Bach quand on la chante à 9 ans. Vous chantiez la Passion selon Saint Jean quand vous avez 9 ans. Et tout le génie. Et donc, vous faites la différence entre ce qu'on appelle en allemand, alors tout mon accent ne sera peut-être pas terrible, le verstehen, le comprendre, et le begreifen, le saisir. Oui. Justement, comment gérer ces deux notions quand on a même pas 10 ans.
Si on écoute la musique, on peut analyser la musique, certainement. C'est une façon d'accès aux musiques, c'est que je comprends que dans ce moment-là, le compositeur fait ça, j'entends les mots, tout ça, c'est procédé par le cerveau, et puis je montre une réaction émotionnelle. Mais on ne doit pas étudier la biographie de Bach pour quand même saisir, c'est le mot ?
Saisir.
Saisir Bach dans son entièreté. Et ça ne veut pas dire qu'après je peux expliquer à quelqu'un d'autre dans tout détail qu'est-ce que j'ai entendu, mais quand même la vérité de cette composition, je compris. C'est plutôt une expérience qu'une analyse.
Comment vous avez choisi justement les cantates que vous vouliez avoir dans ce disque? Bach, c'est venu quelque chose, c'était un projet qui est venu facilement, rapidement, que vous aviez à l'esprit?
Bach a composé, je pense, 5 cantates qui sont pour la voix de alto, alors pour contre-ténor aujourd'hui. Et il y a 15 ans peut-être que j'ai enregistré 2-3 autres cantates. Widersteht auch der Sünde, Vergnügte Ruhe und Geißenseele wird verwirrt. Et on a, ja, ils sont restés 2 cantates que j'ai gardées jusqu'il y a 2 ans. J'ai pensé, ah oui, maintenant j'ai envie d'enregistrer ces 2 cantates, spécialement une cantate qui est un peu étrange, Gott soll allein mein Herz haben. C'est toujours un petit morceau de récitatif, puis c'est comme une aire qui commence, et puis interruption, encore un récitatif. Et j'étais jamais très enthousiaste pour ce morceau, mais pendant la préparation pour l'enregistrement, j'ai finalement compris le morceau, et c'est magnifique.
Justement, je crois que c'est en 1997, au moment d'enregistrer justement du Bach, vous disiez « je ne suis pas assez bon pour ce Bach ». Vous aviez les doutes comme ça qui peuvent arriver.
Oui, ça peut arriver si je comprends la responsabilité, si je comprends le génie de Bach et le fait qu'aujourd'hui, moi, je dois chanter cette musique et de ne pas seulement chanter, mais de communiquer le message de Bach. Ça, c'est une grande responsabilité avec la profondeur dans cette musique. Et la concentration d'un enregistrement, à chaque fois quand la lumière rouge s'allume, je suis concentré 100%. Et puis, je sais, tout ce que je chante maintenant peut trouver son place dans la disque après. Alors, c'est une tension très forte. Et dans ce moment-là, j'étais épuisé. Oui, je me souviens. Oui.
Dans le récitatif, vous dites justement de découvrir à chaque fois des nouveaux détails. Ça veut dire que votre voix aussi, vous la découvrez parfois, encore aujourd'hui, parfois de manière inédite?
Certainement, quand on travaille une récitatif ou une aire de Bach, je ne peux pas dire maintenant je commence à travailler et dans 3 jours j'ai mon interprétation. Dans 3 jours peut-être j'ai gagné quelques idées comment je peux le faire, mais l'interprétation pour moi, spécialement chez Bach, mais aussi dans l'autre répertoire, c'est un process de maturation. Ça veut dire, aujourd'hui, je pense, quand je chante ce récitatif-là, je utilise cette couleur dans ma voix parce que je pense que ça exprime. Alors, 2 semaines après, je reviens dans le morceau, je le chante dans cette façon, je pense, peut-être que ce n'était pas une bonne idée, peut-être j'ai une autre façon. Alors, interprétation pour moi, c'est expérimentation, c'est comme un laboratoire et j'ai d'abord une idée comment j'ai envie d'exprimer ce texte et puis c'est comme quelqu'un qui fait une peinture, j'ai une palette des couleurs et je commence à mixer les couleurs, fais un mélange de ce couleur claire avec quelque chose d'autre. Et c'est un process qui prend du temps parce que je dois explorer toutes les possibilités que j'ai pour dire enfin, je pense que ça c'est le meilleur choix.
quand on est chanteur, vieillir, c'est aussi être obligé de découvrir des nouvelles choses avec sa propre voix.
Certainement, la voix change et dans ma palette des couleurs, j'ai de nouvelles couleurs qui sont accessibles. Et c'est important de ne pas devenir une imitation de moi-même. Alors, je dois toujours réessayer. Est-ce qu'il y a peut-être une nouvelle couleur disponible? Et comme ça, aussi l'interprétation change. Alors, qu'est-ce que je fais il y a 10 ans, c'était bien à l'époque-là, mais maintenant, je dois réinterpréter, repenser.
Il y a aussi le choix du répertoire aussi qui peut changer, j'imagine.
Le choix du répertoire, aussi une responsabilité de découvrir pour moi et pour la public un répertoire nouveau, et le joie de chanter quelque chose dehors le répertoire typique.
Vous avez des envies particulières de répertoire en ce moment? Des directions, des...
Oui, j'ai très envie de faire un projet avec des amis, avec musique folk, jazz, avec une petite band, avec double basse, batterie, piano, clavecin, peut-être luth, de mélanger quelques couleurs de la musique ancienne avec de la musique moderne. Ça, et j'ai un studio d'enregistrement à la maison, comme ça, j'ai vraiment mon laboratoire existe là. Quand on a préparé le dernier disque, on a fait pendant une semaine, on a enregistré toutes les répétitions et la fin du soir, on a écouté pour décider qu'est-ce qu'on a écouté pendant chanter et jouer cette musique. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'on trouve une confirmation? Parce que souvent, j'ai une idée. Mais quand j'entends l'enregistrement, je pense que c'est complètement différent que mon imagination. Ça montre que la perception du musicien, c'est pas exactement la même que lequel de le spectateur.
Avoir une idée, et même pour reprendre votre image de la palette de peinture, quand vous avez commencé à chanter, à quel moment vous avez eu l'impression d'avoir... une vraie palette à disposition et vous avez surtout voulu peindre vous-même.
Comme jeune contre-ténor, on a toujours la tentation de chanter beau. Alors la beauté avant tout. Alors peut-être le faux sera de choisir toujours les couleurs pastel très jolies, très agréables. Mais le message d'une air, c'est pas nécessairement toujours belle. Alors, ça demande un courage de utiliser aussi une couleur qui n'est pas a priori beau, mais qui est expressif. Et ça, c'est la responsabilité du jeune chanteur guidé par un prof qui insiste, qui dit le chant beau, de chanter belle, c'est pas la chose la plus importante, mais de chanter avec une conviction.
Qui vous a appris ça? C'est Richard Levitt.
Richard Levitt, oui, ouais. qui a demandé, qui a dit oui, c'est joli maintenant, mais quand tu lis les mots, ça part de quelque chose de terrible, alors tu peux pas chanter léger, ça doit avoir une gravité, une sens pour le drame.
Je crois que vous avez dit justement dans le même registre que les contre-ténors tombent toujours amoureux du son de leur propre voix.
C'est une tentation que je vois la réaction du public, je vois que je peux enchanter un peu la public avec la sensation du son. Déconnecté avec le meaning, comment dire,
le sens.
Le sens de la musique. Et c'est très clair que c'est en faute. Et si on ne développe pas, si on n'apprend pas ce leçon assez tôt, c'est une erreur terrible pour un chanteur.
Alors Richard Levitt, justement, qui était votre professeur à Bâle, à la Schola Cantorum, à la fin des années 80, début des années 90, il y a René Jacobs aussi dans la foulée. Quel souvenir vous gardez de ces années-là?
C'était une super combination de chanter avec Richard Levitt pour développer la voix. Et René Jacobs, qui était pour moi comme le Lucifer, j'imagine. C'est vraiment quelqu'un qui allume un feu dans le chanteur. C'est quelqu'un qui trouve une vocabulaire, une façon de parler avec des étudiants qui ne tourne pas les étudiants dans les imitations René Jacobs, mais qui réveille le créateur dans un chanteur. Et ça, c'est quelque chose très, très difficile. Moi, je suis professeur du chant pendant 12 ou 13 ans maintenant. Et pour moi, le moment le plus important, c'est le moment où l'étudiant n'est pas étudiant, mais maître. L'étape, la marche entre apprenti au maître. Le moment où l'étudiant dit « Ah oui, je comprends, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu demandes de moi, Andreas ? Mais j'ai pensé que mon vision de ce caractère, c'est comme ça et c'est comme ça. » Et ce sont les moments où comme prof du chant, tu dis « Ah, finalement, ça c'est la naissance d'un caractère indépendant. » Et c'est très difficile à stimuler. C'est pas une science exacte.
Heureusement.
Heureusement, oui, oui.
Et vous, justement, chez vous, est-ce que quand vous regardez rétrospectivement, vous pensez à quel moment il y a eu ce passage, justement?
Pas un moment spécifique, mais certainement, c'est passé dans les leçons avec René Jacobs. Je me souviens d'une récite de la Passion selon saint Matthieu. « Abba, me Scott, hier steht der Heiland angebunden. » Alors, Dieu a pitié, c'est Jésus caché, torturé. Et moi, je chantais, et René m'a interrompu, elle a dit non, mais tu connais l'histoire, tu sais, qu'est-ce que tu dis? Haltet ein! C'est pas haltet ein, mais c'est haltet ein, arrête! C'est pas arrête, arrête! Alors, avec une urgence. Et là, il a insisté. Et quand je suis sorti de la chambre, là, après la leçon, c'était vraiment le sentiment d'une presque une collapse physique, parce que j'étais épuisé. C'est un prof qui a demandé, non, pas comme ça. Il a insisté. Mais dans le même moment, c'est comme j'ai pris une drogue. C'est comme ça. Alors avec René aussi dans le travail, dans les petits ensembles vocaux avec lui, c'est vraiment... J'imagine que c'est un peu mon philosophie, les trois étapes. D'abord, l'imitation du prof. C'est une bonne chose. Imitation. Puis, contemplation. Et la troisième, c'est la plus difficile, c'est l'émancipation. Que d'abord, je fais qu'est-ce que René Jacobs me dit. Puis, je pense comment je me sens quand je fais l'imitation. Et... j'espère que, hopefully, comment dire. J'espère que je trouve quelque chose individuel quand je fais cette contemplation. Puis je dis, ah, je comprends qu'est-ce que lui était envie de dire, mais mon propre idée, c'est un peu différent. Et puis je fais la émancipation. Et ça, c'est la troisième marche, troisième étape, c'est la plus difficile.
Thank you. worauf dich lade.
Dans votre carrière, vous avez travaillé avec les plus grands chefs, on pourrait dire, de la musique baroque. On ne va pas tous les citer. Il y a René Jacobs, avec qui vous avez également travaillé après, mm-hmm. Philippe Hervey, Gardiner, Christie, Hogood, enfin tout le monde, on pourrait dire. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu, j'imagine que des souvenirs, plein de souvenirs incroyables, mais est-ce qu'il y a eu aussi des moments où professionnellement, vous avez, comme vous avez dit, collapsed, vous avez senti qu'il y a vraiment, il se passait quelque chose mm-hmm. Pas le public, mais vous, vous sentiez mm-hmm. qu'il s'est vraiment passé des instants là. Soit lors d'enregistrement ou de...
Oui, je me souviens qu'on a fait un enregistrement de l'oratorio Solomon de Handel avec Paul McCreesh. Et moi, j'étais un peu malade, tout justement prêt à chanter, mais un peu faible. Et on a fait une séquence qui existe dans ce morceau, où là où Solomon chante le début d'une air, et puis le choral continue, puis c'est un autre récit. Alors c'est un dialogue entre Solomon et le choral qui chante. Et on a fait ça pendant 2 heures, non-stop. Et c'était, comme j'ai dit avant, c'était comme une drogue. C'était le meilleur choral que j'ai jamais entendu. C'est une avec les chorales, c'est toujours l'alchimie. C'est beaucoup des gens qui chantent ensemble et ça doit être la juste combinaison. Et je suis sûr que pour ce moment, c'était la combinaison idéale. Et j'étais dans une église et pendant 2 heures, on a répété les mêmes morceaux et j'ai entendu cette musique et c'est comme une hypnose. C'était magnifique.
Alors, chez Cobuzz, on aime bien le beau son. Vous, le son, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est important, puisque vous avez votre propre studio d'enregistrement.
Oui.
À quel moment vous avez décidé de vous construire votre propre studio? C'était en quelle année?
Ah, ça a commencé très tôt. C'est mon père qui a eu une tape recorder.
Un enregistreur.
Un enregistreur de Telefunken. Et puis, une machine professionnelle de ASC, c'est une compagnie allemande. Et moi, j'ai commencé avec une Commodore 64, avec une module sequencer et un synthétiseur Casio, et puis Korg. Avec un ami, on a fait des enregistrements multipistes ping-pong. Alors, toujours mono, on a enregistré une piste, puis on a copié ce piste dans l'autre.
Pour avoir la stéréo.
pas stéréo, mais mono, on a fait ping-pong pour ajouter des autres vocals ou quelque chose. Et puis, pendant mes études à Bâle, à la Schola Cantorum, j'étais aussi membre de studio pour la musique électronique, là, dans l'Académie musicale. Et j'étais responsable pour toutes les choses MIDI, ordinateur, et ça, c'était un studio magnifique. Le propriétaire, c'était la ville de Bâle, avec beaucoup de sponsors. Après la deuxième année, on a de l'argent pour acheter une Studer Dolby SR 24 pistes mastering machine, une Studer console automatisée. Alors c'était vraiment une rêve. Et puis après 7 ans, j'ai quitté, j'étais pas étudiant, j'ai pensé qu'est-ce que je fais maintenant. J'ai un peu une moitié studio déjà ici, j'ai acheté mes choses intégrées dans la studio de l'Académie musicale et j'ai loué une petite pièce hobby, une cave, j'ai installé mes choses, j'ai acheté une console mixage, une ADAT. Alors c'est plus que 20, non, c'est 25 ans maintenant que je fais ça. Et à Bâle, les derniers ans à Bâle, j'ai loué un appartement de pièces. La cuisine, j'ai transformé en salle d'enregistrement, c'était très petite. Et le salon, c'était le control room. Et puis, il y a maintenant 5 ans que je suis retourné en Allemagne et 3 ans qu'on a fini vraiment un bâtiment d'une ancienne ferme du vin transformé dans un studio d'enregistrement, propre régie avec un traitement acoustique, une pièce de 60 mètres carrés, 6 mètres d'auteur avec un piano à queue, un clavecin. J'ai plané toute l'installation pour câble, patch bay, tout ça. Et j'aime ça. J'ai des très bons moniteurs. Gaitein, c'est une compagnie allemande, audiophile, pour le studio d'enregistrement. J'ai une grande collection de microphones.
Ouais.
J'adore ça. C'est vraiment une
la prise de son.
Obsession. Prise de
la prise
son,
de son
oui.
Vous intéresse beaucoup.
Oui, oui, oui. J'ai une console mixage de O2R96 de Yamaha. Très bon préampli de Universal Audio, Earthworks, RME.
Vous pouvez vous reconvertir en ingénieur du son, en producteur.
Oui, je peux faire des enregistrements. Ouais. Je ne l'ai jamais vraiment étudié, mais je fais mes propres enregistrements. Et
justement, d'avoir à disposition, de savoir comme ça, quand tout à coup, vous avez envie, vous savez que vous pouvez aller au studio et
exactement,
enregistrer.
Exactement. C'est aussi mon épouse, elle joue le piano et parfois elle dit... Ah, j'ai un nouveau morceau, j'ai envie qu'on enregistre ça. Alors j'ai mon setup, je branche le micro, je vais dans la régie. Et c'est, je ne sais pas, c'est une fascination de recréer un événement sonorique.
Hein? Sonore.
Sonore. Mm. Que le défi, c'est toujours qu'un enregistrement, c'est très réel, très réalistique. Et comme ça, on a des microphones qui sont bien pour la voix de contre-ténor, l'autre pas. C'est récemment que, par hasard, j'ai découvert un nouveau micro qui est idéal pour la voix du contre-ténor avec une membrane rectangulaire. Comme ça, on a moins de résonance et ça sonne moins nasal. C'est idéal. Et d'abord, pendant 10 ans, j'ai enregistré avec des micros à lampe exceptionnels de Brauner. C'est vraiment une manufacture allemande très chère, et par hasard j'ai trouvé que les autres micros avec son membrane rectangulaire sont, dans le contexte musique classique, sont meilleurs pour la voix.
Quand vous faites de la pop dans votre studio, vous avez d'autres studios,
oui,
d'autres micros.
Des autres micros, oui, oui. C'est un peu une obsession aussi avec une ancienne amie qui a son propre studio à Bruxelles. Parfois on fait un essayage de microphone pour guitare et en comparaison. C'est comme les gens qui aiment du vin. Alors on écoute un microphone, on dit oui, c'est une couleur un peu sombre, c'est très fraîche dans les aigus, rond. Alors on utilise un vocabulaire comme quelqu'un qui parle d'un vin rouge.
Comment vous voyez l'évolution de l'écoute de la musique, la dématérialisation, le téléchargement, etc., ces choses-là, en tant des deux côtés, d'un côté comme musicien, enfin comme chanteur, donc, et en même temps comme mélomane, comment vous voyez aujourd'hui les pratiques?
C'est un peu un chemin qui va dans les directions contraires. On a travaillé beaucoup, la technique s'est développée pour finalement la technique digitale, haute résolution, arrive finalement à la qualité d'une high-end analog tape. C'est beaucoup moins cher, c'est un avantage. Alors, normalement, ça sera un super développement. Mais on a commencé à consommer ce musique avec des reproducteurs le moins cher possible. Une iPod avec des écouteurs cheap. Pour des raisons de épargner l'espace dans notre disque dur et le téléchargement, on a une compression MP3 ou des autres qui détruit toute l'idée d'un ingénieur du son. Alors, quand j'utilise un microphone, deux microphones de 4000 euros pour enregistrer ma voix avec un préampli très cher, on fait un mixage exceptionnellement, on travaille dans le détail, et puis on écoute ça dans un iPod, c'est pas vraiment nécessaire. Et ça, c'est une drame, je trouve. Mais même, pas dans la maison du disque où je suis maintenant, mais chez une autre maison du disque, j'ai réalisé un enregistrement. Ils m'ont envoyé le master, qui était déjà en production. Et c'est pendant une patch que l'ingénieur du son a utilisé, il y a un problème de phase. Alors, avec le casque, j'ai entendu que je chante en stéréo, et puis c'est en mono, et puis ça revient en stéréo. Et c'est certainement une faute dans la production, une faute de l'ingénieur du son. Et j'ai appelé le boss de cette maison du disque. Et je dis, pourquoi on fait tout ce travail? Est-ce qu'il n'y a pas un contrôle de qualité? Et la réponse est, mais seulement toi qui écoutes ça parce que tu as ton studio d'enregistrement. Alors on a même, et maintenant je suis heureux que je suis chez Decca, qui est quand même une compagnie avec une réputation pour une bonne prise du son, le Decca Tree,
le son Decca
vraiment, et je fais toutes mes enregistrements avec le même ingénieur du son, j'arrive avec mes propres microphones, lui connaît ce fait-là, j'ai même pris le préampli pour le dernier enregistrement, et là j'ai 100% de confiance dans ce homme-là qui fait la prise du son, Philippe Seiny, qui est un ingénieur du son exceptionnel.
Quand vous ne faites pas de musique, vous en écoutez beaucoup, la musique des autres ou...
Pas beaucoup, mais souvent, oui. Et si j'ai envie, si je trouve une bonne production, par exemple, j'ai téléchargé l'album d'un groupe de les années 80, OMD, Orchestra Maneuvers in the Dark. Mais eux ont refait un album il y a 3-4 ans. History of Modern. J'ai téléchargé ça et je trouve c'est super. Et puis j'ai acheté la CD pour écouter ça dans mon studio avec les bons baffles et j'ai entendu mille fois des détails. Et ça, c'est souvent, je prends une CD quand j'aime la prise du son. Je prends ce CD et j'écoute dans les meilleures circonstances que je peux créer. Et je suis dans mon siège là et c'est un super plaisir. C'est une combination de appréciée.
Appréciation.
Appréciation de musique, mais aussi la qualité d'enregistrement. C'est pour moi, c'est un grand plaisir d'avoir un joli enregistrement du jazz. Et on écoute le double basse qui joue et j'ai l'idée, ah, c'est lui, c'est l'instrument qui est là. Et le piano, alors le stéréo panorama bien placé, pas trop de détails. Alors ça, j'apprécie ça beaucoup.
Vous avez cité OMD, vous êtes toujours un grand fan de pop électronique des années 80.
Oui, New Order, OMD, Howard Jones, Anne Clark.
Alors, plutôt que de vous demander quel est votre enregistrement préféré de James Bowman, je vais vous demander quel est votre album préféré des années 80.
Oui.
Est-ce que vous avez un album fétiche? C'est la question
piège. Peut-être, non, oui, Robert Palmer, Honey. C'est un superbe album avec une piste de petite bossa nova, Honeymoon, qui est géniale. Alors ça, c'est quelque chose. Et aussi OMD. J'ai aussi toute la vidéographie de OMD, Pet Shop Boys, tout ça, c'est...
Bien.
Ouais.
Bon, bah, une fois qu'on aura écouté ça, donc on conseillera aux éditeurs de Cobuzz d'écouter aussi vos cantates de Bach qui viennent de sortir chez Decca. Merci, Andreas Scholl.
Merci.
www.cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.